Page spéciale, l'étoile d'Irène et de Christian pour parler de cinéma, puisque nous avons eu le plaisir de voir en avant-première le premier long métrage de David Roux, L'Ordre des Médecins, qui est au programme de nos amis de l'American Cosmographe. Et le film sort officiellement le 23 janvier et il sera à l'affiche de l'American jusqu'au 19 février. Alors donc j'étais avec Irène Finkel. Bonjour Irène.
Oui, bonjour Christian, bonjour à tous. Effectivement, nous avons vu L'Ordre des Médecins, comme vous l'avez dit, avec David Roux, mais avec Jérémy Régnier, Marthe Keller et Zita Enro. Christian, je crois qu'on a été d'accord sur le ressenti du film. C'est un film intelligent, pudique, qui nous concerne tous, puisqu'on parle d'un sujet universel, la mort d'un proche. Alors c'est vrai que là, c'est traité, on va le dire, différemment, puisque c'est le médecin pneumologue à l'hôpital qui a l'habitude de soigner et de gérer, effectivement, bien entendu, tous les patients au quotidien, jusqu'au jour où c'est au tour de sa maman d'être hospitalisée. Et là, la pauvre, elle est effectivement en stade terminal d'un cancer. Et là, la gestion affective et la gestion de la maladie n'est pas la même, puisque là, évidemment, c'est plus le médecin qui réagit, mais c'est l'homme et l'enfant de cette femme.
Et à l'origine, ce film a été inspiré de sa propre histoire, histoire de sa famille, David Roux. Mais après, bien sûr, il a basculé sur la fiction à proprement parler. Et donc, nous vous proposons d'écouter justement ce qu'il nous en dit. Donc, à tout de suite. Après, nous nous retrouverons pour la deuxième page cinéma. Alors, Irène Finkel, Christian Moreto pour Esprit Occitanie. David Roux, vous venez présenter en avant-première chez nos amis de l'American Cosmographe. Vous avez bien choisi, ou en tous les cas, l'équipe a bien choisi. L'Ordre des Médecins, un très beau film qui rend hommage à la profession en milieu hospitalier, mais qui va bien au-delà lorsque la mère, interprétée par la sublime Marthe Keller, du médecin pneumologue, que joue de façon également magistrale Jérémy Régnier, entre à l'hôpital pour une récidive. Et là, tout est en quelque sorte chamboulé. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire et à tourner ce film ?
D'abord, moi, je viens d'une famille de médecins. Mes deux parents étaient médecins en milieu hospitalier. Mon frère aîné est médecin. Il est pneumologue en soins intensifs. Je me suis énormément inspiré de lui pour écrire le personnage que joue Jérémy Régnier. Et puis j'avais comme ça l'idée d'éventuellement un jour, connaissant un petit peu l'hôpital de l'intérieur depuis tout petit, j'avais l'idée d'éventuellement, si jamais un jour je faisais un film, de parler de ce monde-là. Et puis il se trouve que j'ai perdu ma mère en 2012, qu'elle a été longuement malade et que j'ai vu comment tous les yeux se tournaient vers mon frère médecin. Tous les yeux de la famille, on est une grande famille et puis un sens très élargi de la famille, donc ça faisait beaucoup de perdus qui se tournaient vers lui. Et comment ça le mettait dans une position un peu spéciale quand même. Voilà, et puis j'ai vu comment sa belle assurance professionnelle était un petit peu affectée quand même par la situation personnelle dans laquelle il était à ce moment-là. Voilà, donc c'est de cette période-là qu'est né le projet. Après, j'ai mis beaucoup de temps. En commençant à écrire, j'ai beaucoup tourné autour du pot, j'ai mis du temps à admettre que le cœur du film devait être ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire cette relation entre un fils médecin et sa mère malade. Ça a beaucoup été au départ une chronique très quotidienne de la vie à l'hôpital. Et puis évidemment, ma vie, enfin, mon expérience personnelle autour de la maladie et de l'essai de ma mère, s'est progressivement invitée dans le film.
Est-ce que c'était aussi une manière de faire son deuil ?
Oui, presque plus qu'une manière que faire son deuil, c'était une façon de se dire que, enfin, de faire en sorte de faire quelque chose à partir du deuil. Moi, j'avais toujours rêvé de faire du cinéma sans trop me l'autoriser parce que ça me semblait absolument hors de portée. J'avais une culture du chef-d'œuvre excessivement inhibante. Donc j'étais très lent à approcher finalement ce métier, puis à admettre que c'était peut-être une ambition que je pouvais me permettre. Et puis ça a été encore très long après de trouver le sujet que j'allais mener à bien. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard à ce que ce soit ce film-ci qui m'ait permis de passer le cap, quoi, et de changer de vie, puisque j'ai changé de vie. J'avais un autre métier avant. Voilà. Et donc oui, c'est une façon de faire son deuil et d'aller encore plus loin, quoi. Ouais, complètement.
Irène ?
Oui, c'est de faire son deuil, et j'ai envie de dire presque rendre hommage à la fois et à votre maman et à votre frère.
Complètement. Oui, oui, oui.
Alors, moi, j'ai plusieurs questions. Donc, Christian, si je suis trop bavarde, tu peux me couper. Alors déjà, l'Ordre des médecins, pourquoi ce titre ? Est-ce que vous parlez ici de l'ordre affectif des choses ou est-ce qu'il y a une quelconque graduation de priorité ?
Il y a peut-être la notion d'ordre des choses, d'ordre plutôt affectif dans ce cas-là. Et peut-être le personnage de Simon, joué par Jérémy Régnier, donc remet un peu d'ordre dans ses priorités, puisqu'il consacre énormément de temps au début du film à l'hôpital. C'est quasiment un huis clos, hein, ce film, avec l'idée que cet univers engloutit tout. Et lui s'est laissé engloutir de façon assez sereine, en fait, assez volontaire, hein, parce qu'il est très à l'aise dans ce métier-là. Et que, voilà, mais petit à petit aussi, il a laissé en jachère un peu d'autres pans entiers de son existence, la vie familiale, sa vie affective. Voilà. Et le choc qu'il est en train de vivre remet complètement en question tout l'équilibre de son existence, et évidemment, et il va au fil du film réinvestir des champs de sa vie affective et humaine qu'il avait un peu laissé de côté. Donc oui, il remet de l'ordre dans ses priorités, il redevient un peu plus un homme, un peu moins un médecin, il y a un rééquilibrage. Et puis ce titre, il est aussi à entendre presque dans un sens un peu religieux. Parce que quand on devient médecin, on prête un serment, le fameux serment d'Hippocrate, on rentre dans un ordre, l'ordre des médecins, et bien souvent, et encore plus pour les médecins qui exercent en milieu hospitalier, il faut qu'ils aient eu la vocation, parce que ce monde est assez vorace, et puis on s'engage à respecter une éthique. Voilà, et donc il y a un parallèle comme ça avec la vie religieuse qui m'a semblé, en tout cas au début de l'écriture, assez présent. Et puis ce que traverse ce personnage, c'est vraiment une crise de foi, une crise de vocation, comme peuvent, m'a-t-on dit, hein, moi je ne suis pas croyant du tout, je ne suis pas religieux, mais comme peuvent en traverser les hommes de foi.
Alors, à ce sujet, puisque vous parlez de religion... est-ce une volonté particulière de vouloir choisir un médecin de confession juive par rapport, pour le rôle du pneumologue, par rapport à la relation forte existant entre un fils et sa mère? Est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi parce que, de façon anecdotique, j'ai trouvé ça presque cliché que le fils de commerçant, médecin, vous connaissez peut-être la blague qui dit quelle est la différence entre un médecin et un commerçant, une génération. Et voilà. Et donc j'ai pensé bien évidemment à cette blague en voyant votre film, et je voulais savoir pourquoi ce choix du médecin juif.
Là, tout simplement parce que ça c'est vraiment l'histoire personnelle. D'ailleurs, on vient d'une famille mixte. Mon père est catholique, pas du tout pratiquant, hein, et ma mère était juive, mais elle non plus pas du tout pratiquante. Juste, il y avait quand même cette présence culturelle un peu à la maison. Et puis, c'est pas parce que c'est ma vie personnelle ou parce que c'est une histoire vraie, quoi, que ça vaut le coup d'être d'apparaître forcément dans un film. Ça, c'est un peu une prise d'otage que j'aime pas trop, quoi. La caution histoire vraie, franchement, ça suffit pas. Et donc là, ce qui pour moi a un sens à être dans le film, c'est que cette culture yiddish, elle est toujours très partagée, vraiment en équilibre très précaire, puis ça balance d'un côté et de l'autre, entre la tristesse et la joie, entre la vie et la mort. Il y a vraiment un truc comme ça de funambule dans cette religion, puis dans la musique, par exemple, qui est aussi présente dans le film, voilà, et qui raconte bien ça. Voilà, ce truc où la vie et la mort sont évidemment très, très liées, et que c'est une façon presque très quotidienne de le vivre. Puis de se rappeler, oui, des anciens, éventuellement. Enfin, voilà, il y a un truc là-dedans qui me semblait résonner et être... apporter une dimension supplémentaire au film. Voilà pourquoi ce pan-là personnel s'est invité aussi dans le film. Il y en a plein d'autres très personnels que je n'ai pas mis dans le film, parce que ça n'avait pas sa place, quoi.
Alors, le film est intéressant de voir, bien sûr, pour la gestion de la maladie d'un proche par un professionnel de santé et son impact sur sa vie professionnelle future. Alors, sans parler de votre frère, puisque vous avez évoqué que votre frère était pneumologue, pensez-vous que quand un professionnel de santé, quel qu'il soit, vit le drame de la perte d'un proche, sa vision de la gestion des patients au quotidien est différente?
Bon, je serais tenté de dire comme ça, spontanément, que forcément, oui. Après, je sais pas, je suis pas soignant, et je peux parler vraiment que de ce que je connais. Comment j'ai vu mon frère affecté par ça. Et je crois que oui, parce que en fait, cette question, vous voyez, cette question de la distance des soignants avec leurs patients, qui est vraiment une condition pour exercer ce métier correctement, pour rester lucide et prendre les bonnes décisions. Évidemment, parfois ils peuvent paraître brutaux, ils peuvent paraître inhumains à certains. Cette distance-là est non seulement indispensable, mais c'est une question qui n'est jamais réglée, en fait, une fois pour toutes. Elle se repose quasiment de façon quotidienne. Et donc, oui, évidemment, les médecins se laissent affecter par leur vie personnelle. Ça peut être le décès ou la maladie d'un proche, ça peut être autre chose, des déboires conjugaux, que sais-je, quoi. Des enfants qui en bas âge qui ne dorment pas. Voilà, je sais que ça peut peser un peu dans le quotidien. Voilà, non mais évidemment, ils doivent composer avec ça tout le temps. Et quelque chose d'aussi profond, abyssal, incompréhensible et inévitable que la mort d'un proche, oui, ça les change, ça les bouge. Et je suis sûr que certains seront meilleurs médecins après, et certains seront peut-être moins bons. J'en sais rien. Sur l'effet à long terme, je sais pas, mais oui, ça les change. Ouais.
J'ai pas d'autres questions, mais je voudrais profiter d'avoir le micro pour vous dire deux, trois mots sur ce que j'ai pensé de votre film. J'ai trouvé que c'était un film, bien sûr, intelligent, pudique. J'ai aimé votre façon de filmer qui est classique. On a vraiment l'impression à certains moments d'être dans du reportage, plus que dans un film. Et pourtant, c'est bien un film. J'ai vraiment apprécié c'est sans chichi. Il est simple, il est beau, il est à voir et je le conseille vraiment à tout le monde.
Belle conclusion, Irène. Alors, David Roux, vous avez donc vous commencez à rencontrer le public, à faire des avant-premières. Quels sont les retours? Quelles sont les questions? Comment vous vous trouvez là? Enfin, est-ce que vous vous sentez bien à partager ce que vous avez mis en image et au niveau du son, bien sûr, et de la voix aussi?
Écoutez, pour moi, c'est vraiment une découverte de venir présenter un film. C'est mon premier film. J'ai fait quelques courts-métrages, mais pas tant que ça. Et puis les courts-métrages, on les montre deux ou trois fois dans des festivals où on peut accompagner le film. Et puis, et des festivals de courts-métrages, c'est quand même essentiellement des professionnels qui y sont ou des, vraiment des aficionados. Et je n'ai jamais rencontré le public jusqu'à présent. Et le rencontrer autour de ce film-là particulièrement, qui est évidemment très personnel, mais qui est aussi, qui visiblement appelle et génère une certaine chaleur, bah, c'est vraiment incroyable, quoi. Vraiment, moi, je suis absolument ravi et impatient à chaque fois de venir partager le... de partager le film avec, avec le public. Et je n'avais pas anticipé ni ce plaisir, ni cette chance, puisque pour moi, et ça, j'avoue que ça me fait encore un peu peur, c'est que quand un film sort et est exploité commercialement, ça nous échappe complètement. Ça n'existe plus pour nous, quoi. Ou sauf dans des chiffres, mais qui ne veulent rien dire. Et puis, pour de vrai, je n'ai aucune espèce d'ambition en termes de chiffres. Je ne vais pas dire que ça ne m'intéresse pas du tout, mais pas loin, quoi. Par contre, effectivement, échanger avec le public et voir l'effet que le film leur fait éventuellement, ça c'est extrêmement riche pour moi, ouais.
Oui, je voudrais dire que pour un premier film, vous avez une chance, c'est d'avoir un casting extraordinaire avec des acteurs connus et reconnus, mm-hmm. et qui sont parfaits. On a cité Jérémy Régnier, on a cité Marc Keller, c'est quand même de grands acteurs, mm-hmm. et ils sont parfaits dans leur rôle. Il faut aussi le souligner.
Qu'est-ce que vous avez envie encore de dire aux auditrices et aux auditeurs d'Esprit Occitanie?
Écoutez, en plus de ça, je suis ravi que ce film me donne l'occasion de découvrir Toulouse. C'est la première fois que je viens. Et exactement. Et je n'ai que trop attendu. Donc voilà, merci. Enfin, je suis heureux que ce film me donne cette occasion.
D'accord, merci.
Voilà, donc, L'Ordre des médecins, un film de David Rooks, à voir chez nos amis de l'American Cosmograph du 23 janvier au 19 février. Qu'est-ce que tu as envie de rajouter, Irène?
Qu'il faut voir ce film. Qu'il faut vraiment voir ce film parce qu'il n'est pas du tout larmoyant. Hein. N'y allez pas avec les mouchoirs, ce n'est pas du tout un film où on pleure. C'est un film qui informe. La réalisation est très belle dans sa simplicité. Je le disais lors de l'interview, c'est vrai qu'à certains moments, on a vraiment l'impression d'un documentaire, mais documentaire très intéressant. Donc allez voir ce film, et comme l'a dit Christian, à partir du 23 janvier chez nos amis de l'American Cosmograph.
Merci Irène, et je vous propose aussi d'écouter maintenant, et vous êtes donc dans une spéciale L'Étoile d'Irène et de Christian, eh bien, d'écouter aussi un entretien réalisé avec Félix Moati, qui vient de tourner son premier long métrage, qui est un acteur, c'est le fils de Serge Moati par ailleurs. Mais il vient de tourner et de présenter, en tous les cas, chez nos amis de l'ABC, Deux Fils, donc son premier long métrage, qui sera à l'affiche dès le 13 février prochain. Nous l'écoutons.
Alors, pour L'Étoile d'Irène et de Christian, sur Esprit Occitanie, Félix Moati, vous êtes donc un jeune acteur confirmé, talentueux. Et aujourd'hui, vous venez présenter chez nos amis de l'ABC à Toulouse votre premier long métrage, Deux Fils, avec une très belle distribution, à savoir notamment Vincent Lacoste, Benoît Poulvorde, Anaïs Dumoustier, et puis le très jeune et talentueux Mathieu Capella. Donc le fait d'être passé de devant la caméra à derrière la caméra en tant que réalisateur, cela vous a-t-il facilité la tâche avec vos acteurs, notamment au niveau de la confiance, voire de la complicité?
Ouais, je pense que ça c'est une très bonne question, parce que je pense qu'effectivement le fait de faire moi-même l'acteur a facilité mon rapport aux acteurs sur le plateau quand j'ai réalisé Deux Fils, parce que je savais exactement quelles étaient leurs angoisses, quelles étaient leurs craintes, et je les dirigeais comme moi j'aimerais être dirigé, et donc je pouvais m'identifier à eux en fait, parce que je suis souvent à leur place, et donc c'était effectivement beaucoup plus fluide. Je pense qu'un réalisateur, par exemple, dont ce serait le premier film et qui n'aurait jamais joué auparavant.
Alors, donc, qu'avez-vous éprouvé comme sensation, comme émotion en passant justement d'acteur à réalisateur? Le plaisir notamment d'orchestrer toute l'équipe du tournage, d'orienter le jeu, le stress de celui qui dirige et qui à certains moments a peur de se planter?
Bon, c'est un peu tout ce que là vous venez de dire, tout ce qui m'a traversé pendant ces 9 semaines de tournage. C'est-à-dire que y a un plaisir très galvanisant à embarquer plein de gens dans une histoire qui est plus forte que nous. Moi, je suis très attaché à cette idée de travail collectif et d'espace collectif. Et donc être non pas à la tête, parce que je vois pas de hiérarchie sur un plateau, mais d'être celui qui va faire en sorte que les gens se rencontrent dans l'équipe technique pour qu'on travaille tous ensemble, pour être au service d'une histoire, ça m'a beaucoup plu. C'est très galvanisant. C'est-à-dire que pendant ces 9 semaines, j'ai pas connu un moment de fatigue. Pas les 9 semaines passées, j'étais rincé, mais pendant le travail, j'étais tellement entouré, et en fait c'est tellement quelque chose d'important dans ma vie de pouvoir faire des choses avec d'autres gens, de pouvoir rencontrer d'autres gens et de pouvoir partager un moment de travail collectif. Ça c'était assez passionnant chaque jour, quoi. Mais par contre, oui, une responsabilité, un stress vraiment, mais bon, après voilà, moi tout me fait peur, donc tout me stresse, donc en même temps ça pas plus qu'autre chose.
Alors, vous avez tourné dans Paris, visiblement, ouais. Dans des lieux que vous appréciez particulièrement?
Ouais, j'ai tourné globalement en bas de chez moi, quoi. J'ai tourné, en fait, dans des endroits où j'ai une mémoire affective. Pour moi, c'est un souci d'honnêteté, un souci de sincérité. C'est-à-dire que j'ai envie de filmer ce que je connais. En tout cas, pour un premier film, peut-être que plus tard, je voudrais filmer des endroits que je ne connais pas. Mais pour l'instant, pour partager quelque chose d'aussi intime avec d'autres gens, j'avais vraiment envie de filmer des espaces qui m'étaient familiers, qui m'étaient chaleureux, qui étaient imprégnés de souvenirs. Voilà.
Alors est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle était l'ambiance du tournage? Justement, il y avait une confiance entre les comédiennes, les actrices, les acteurs, le réalisateur et puis toute l'équipe des techniciennes, techniciens.
Franchement, il y avait une très très bonne ambiance. Après, moi, je conçois pas qu'on puisse faire des films dans le malheur. C'est un métier tellement dur que quand on le fait, il faut vraiment en profiter et il faut vraiment, je veux dire, on a de la chance. C'est un métier privilégié et il est hors de question que de produire un film, de fabriquer un film dans la douleur. Encore moins pour les gens de l'équipe technique. Faut que tout le monde se sente bien sur un plateau. Pour moi, c'était essentiel et j'ai l'impression que cette tâche a été accomplie. Donc ça m'a rendu très heureux. Ouais.
Et comment vous est venu un petit peu le sujet du film, sans tout dévoiler? Il y a eu un déclic? Comment est venue l'écriture?
Ouais, je pense qu'à un moment donné, j'avais 25 ans quand j'ai commencé à écrire. Je pense que c'est un âge de bascule chez les jeunes gens, quoi. On se dit, on est en train de quitter véritablement l'enfance, pour de bon, je veux dire, radicalement. On l'a quitté depuis quelques années déjà, mais radicalement, à 25 ans. Et j'ai voulu me souvenir... J'ai comme fait un dialogue, en fait, avec le souvenir peut-être déformé du gamin que j'étais à 13 ans. Et j'ai voulu créer un dialogue entre ce personnage de 25 ans et ce personnage de 13 ans, en fait. Et à quel point, à 13 ans, je supportais pas que mes modèles, que mon frère, que mon père, que mes autres modèles de famille puissent s'effondrer un peu, parfois. Je pense qu'à 13 ans, on supporte pas la faiblesse. Et que, alors que vivre, c'est s'effondrer un peu. Et alors que se cogner au réel, grandir donc, c'est accepter de s'effondrer un peu. Voilà. Ça, c'est une idée à laquelle je suis très attaché. Qui n'est pas une idée, en fait, qui est un truc que je constate quotidiennement.
D'accord. Donc, le film passe en avant-première chez nos amis de l'ABC. La sortie officielle, c'est le 13 février prochain.
Exactement.
D'accord. Merci.
Merci.
Alors, pour l'étoile...